Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h32 sur RMC, RMC Story, c'est l'heure du zapping, le meilleur des RMC. On va commenter tout ça avec Rémi Barré, Pierre Rondeau, Fatima Benomar et Fred Hermel.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va démarrer tout de suite ce zapping avec un extrait d'Apolline Matin. Faut-il revoir les horaires des écoles? C'est l'idée de la région des Hauts-de-France qui souhaite déplacer les cours d'école du samedi au mercredi afin de faire des économies de chauffage dans les lycées. Mais cela obligerait à modifier tous les emplois du temps des cours, les horaires des cars scolaires et les services de cantine. Un projet impensable pour les représentants des parents d'élèves et directeurs d'école du Nord.
Ça va apporter une amplitude horaire, mais catastrophique. Du lundi jusqu'au vendredi, de 8h-17h non-stop.
Ça ne doit pas être jouable, la question ne doit pas se poser. Il y a des horaires de fonctionnement qui sont définis d'ailleurs par un règlement intérieur. Dès qu'il y a un incident, on ne va pas chercher à modifier les horaires. Il y a une recherche d'économie qu'on peut comprendre, hein, mais après, il faut trouver des justes équilibres. Il faut que les enseignants et les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions et les personnels administratifs également.
Alors on va quand même expliquer que en fait c'est pas parce qu'il fait plus froid le mercredi que le samedi. En fait l'idée c'est de grouper tout simplement les jours des élèves à l'école afin en fait de faire des économies de chauffage. Quand vous avez un jour de plus, vous chauffez plus. Et là le fait de travailler le mercredi et pas le samedi fait que en fait on ne chaufferait pas les établissements le samedi et le dimanche. Ce serait une bonne idée ou pas ça, Pierre Rondeau?
Ce qui serait une bonne idée au-delà de cette question spécifique des horaires sur les établissements scolaires, c'est de savoir à qui s'appliquerait le bouclier tarifaire et notamment aux entreprises, et non pas entreprises, mais établissements d'importance majeure. Et les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Il est évident qu'à l'approche de l'hiver et des jours froids, ces établissements qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, contrairement aux ménages français, vont voir leurs factures exploser. Moi, je pense, et dans un des cours à l'université, en école, là, pour l'instant, ça va, il fait 15 degrés à Paris, donc on arrive à tenir. Mais quand il fera moins 5 en plein hiver, et que déjà, il fera nuit à partir de 5 heures, donc déjà, il y aura l'éclairage, le chauffage, que ces établissements, et notamment universitaires, qui déjà souffrent d'une dette assez importante, vont voir arriver une facture colossale.
Ils sont souvent délabrés, en plus.
Et en plus délabrés, qu'est-ce qu'ils vont faire? On passera par le télétravail, par le distanciel, par la fermeture des établissements, des écoles.
Certains ont déjà envisagé,
justement. Ouais. Et donc, plutôt que de passer par ça, par une modification des comportements, parce qu'on n'arrive pas à faire face à l'augmentation, réfléchissons aussi à l'application du bouclier tarifaire, aussi sur les établissements d'importance majeure. Les écoles, alors oui, ça coûte de l'argent, mais est-ce qu'on...
Mais les entreprises aussi, Pierre?
Alors, mais... Étape par étape, step by step.
Ah d'accord, toi,
d'abord, tu... je vais d'abord, si tu me le permets, ouais, mettre une priorité sur les écoles et ouais, l'éducation avant, effectivement, de réfléchir à la question des entreprises. Et tu as raison, aussi, on peut y réfléchir sur la question d'importance majeure. Transition énergétique, sobriété, c'est évidemment une bonne solution. Mais moi, ce qui me choque là, c'est qu'on réfléchisse à modifier les horaires parce que, justement, ça va exploser et on va devoir payer des sommes colossales avant même de réfléchir à... Ben tout simplement, on leur permet cette protection et on leur applique le bouclier tarifaire. Parce que ce sont des écoles, de l'éducation.
Mais tu peux faire les deux. Je dirais, tu peux très bien mettre l'école au lieu de l'avoir le samedi, le mercredi.
Mais oui, mais si demain on nous dit qu'il y aura des écoles qui vont fermer, que les profs vont s'arrêter de travailler et à raison parce qu'il fera trois fois dans les classes, on ne peut pas arriver à ça.
Est-ce qu'en février.
Oui, mais on peut y arriver.
On ne sait pas du tout ce qui va se passer cet hiver.
Justement, mais dans beaucoup d'établissements délabrés, comme tu l'as dit, où justement il fait très froid à l'hiver, quand il fera 10 degrés ou 9 degrés et qu'on va pas chauffer parce qu'on n'aura pas les moyens de se chauffer, est-ce qu'il y aura encore école? C'est toute la question.
Ça va arriver, c'est sûr. Moins 10, on n'est pas sûr.
Et on a aussi connu par le passé, moi quand j'étais collégien ou lycéen, des classes surchauffées.
Bien évidemment.
Donc il y a aussi une.
Mais bien, je dis. Sur la rénovation thermique.
Les couloirs du lycée étaient chauffés.
La rénovation thermique des bâtiments publics, c'est quand même un sujet qui aurait dû être mis sur la table il y a 20 ans. En prévision du dérèglement climatique. Aujourd'hui, on y est. Il est là, donc on ne peut pas faire autrement. C'est pas en 6 mois qu'on va rénover les fenêtres.
Tu fais quoi avec les écoles privées?
Mais je vais essayer la même chose.
Attends,
alors, je donne un exemple.
Là, mais tu parles de bâtiment public, une école privée, c'est pas un bâtiment public.
C'est pareil. Où justement, l'établissement de scolarité privé, où il y a une somme qui est payée, évidemment. Moi, je parle pour le supérieur, où il y a aussi une quête de lucrativité vis-à-vis des étudiants. Ils se poseront la question,
est-ce que je vais compter la région,
mais
oui. Donc ce sont les
lycées. Oui, non, mais que ce soit public ou privé, mais même pour le privé, la question aussi de la soutenabilité, de la viabilité scolaire pour les étudiants, d'accord, pour les lycéens, pour les collégiens.
Je trouve ça lamentable. La typique fausse bonne idée. En gros, ce sont les gamins qui vont payer pour les erreurs des.
Payer quoi? Je suis en train de dire le contraire.
Excuse-moi.
J'ai passé 10 minutes à dire le contraire.
Si tu parles pendant 10 minutes, je peux faire simplement une sujet vers complément.
Vas-y.
C'est non, pas mais ce que je dis.
Ce sont les gamins qui vont payer pour les erreurs des autres, de l'État. Mais c'est n'importe quoi. Et excusez-moi, il y a un rythme. On sait très bien que le biorhythme est très important, le rythme scolaire. C'est très important pour les enfants. C'est très important pour les enfants. Et on peut pas les bousculer comme ça pour faire des économies d'énergie. Je suis désolé. Les enfants, on sait que c'est très difficile de bouger les habitudes des enfants.
Ouais, enfin, les tablettes, c'est plus dangereux pour leur rythme.
Les enfants ne doivent pas être une variable d'ajustement.
Les smartphones, c'est plus dangereux pour leur sommeil que le changement de rien.
Exactement. Fatima Benomar.
Non, en tout cas, moi, je pense qu'il faut penser effectivement la manière, enfin, quand les enfants vont à l'école. Par exemple, quand j'étais petite, mon père m'avait miroité qu'on irait on migrait au Canada, et il me donnait plein de brochures en me disant, tiens, toi qui as une sensibilité artistique, tu sais, les après-midi là-bas, au lieu de faire, enfin, on fait des activités. Voilà. Je pense qu'il y a, enfin, je trouve ça dommage de penser les horaires et la vie en fait sociale que vivent les enfants à l'école à l'aune de tout ce qu'on n'a pas fait par rapport à la rénovation thermique, plutôt que de le penser par rapport à qu'est-ce que devrait être une vie scolaire épanouissante. Donc c'est ça que je trouve extraordinairement décevant. Et oui, c'est sûr que c'est dommage d'en arriver à ce genre de variable d'ajustement, et il faut très très vite donc accélérer la planification écologique et la rénovation de tous les bâtiments, par ailleurs, tous les bâtiments où on vit, au travail par ailleurs aussi. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on ait des chocs thermiques entre une tour et l'espace public, ou même entre un couloir et un autre.
Les GG ce matin. Sandrine Rousseau est-elle vraiment un atout pour les femmes? La question se pose pour de nombreuses personnes avec la succession de polémiques que la députée Europe Écologie Les Verts a lancée ces derniers mois. C'est le cas notamment de Zora Bitton. Elle est cadre de la fonction publique et elle s'en expliquait tout à l'heure dans les GG.
En tant que femme, pour moi, la vision de Sandrine Rousseau, pour moi, c'est une féministe bourgeoise blanche qui s'adresse à ces gens-là. Elle ne s'adresse à aucun moment à ma féminité à moi, ni à mon féminisme à moi. Moi, je suis exclue du féminisme de Sandrine Rousseau. Parce que Sandrine Rousseau, dans son féminisme, elle s'intéresse à des choses qui ne remettent pas en cause le patriarcat qui toucherait certaines populations. Elle, nous sommes pour elle, entre guillemets, les femmes issues de cultures musulmanes et maghrébines, assignées à notre identité, parce que nous parler de féminité à nous, c'est remettre en cause une culture à laquelle elle doit vouer un certain respect et une certaine distance, parce que c'est votre culture. Donc, pour moi, Sandrine Rousseau passe son temps à insulter mon droit à la féminité au même titre qu'une femme blanche et bourgeoise, et au même titre que n'importe quelle femme.
Je me tourne vers vous, Fatima Benomar. Sandrine Rousseau est-elle un atout pour les femmes?
Alors, je ne pense pas que les personnes soient un atout ou pas pour les femmes. Ce que je sais, c'est que toutes les féministes, au moment où à toutes les époques ou à un moment où elles se sont mobilisées, ont eu ce procès en sorcellerie et en ridiculisation. Gisèle Halimi, par exemple, depuis qu'elle est décédée, on n'arrête pas de dire que ça, c'est au moins une féministe présentable et gentille, alors qu'on disait pique-pendre d'elle pendant sa vie et qu'on disait qu'elle était beaucoup trop radicale. Donc, je vois vraiment avec le phénomène Sandrine Rousseau quelque chose qui me rappelle le phénomène avec Ségolène Royal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de toute façon, quels que soient les éléments qu'elle met dans le débat, je t'assure que des personnes qui mettent des éléments outranciers dans le débat, et notamment sur le terrain raciste d'ailleurs, aujourd'hui dans le débat public, il y en a partout. Et on ne leur fait pas des procès comme ça. Elle amène des débats sur les conflits de féminisme.
Là, c'est la façon qu'elle a eue. Je suis désolée, je pense qu'on ne se serait jamais posé la question s'il n'y avait pas eu l'affaire Julien Bayou et le fait d'outer quelqu'un comme ça dans une émission de télé. Ça a été une erreur. Je suis désolée.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette émission?
Pour beaucoup de femmes, ça a été une erreur.
Les journalistes lui posent la question. Elle leur dit, cette femme, je l'ai entendue. Je n'ai eu qu'un seul témoignage, c'est le sien. Et elle témoigne de violences psychologiques.
Elle l'a dit avec un petit sourire. On ira step by step. Il y a une enquête journalistique. Elle a tenté de
justement parce que les journalistes étaient en train de lui dire maintenant vous faites quoi? Elle répond.
Moi je veux bien tout entendre.
Justement, je ne veux pas accélérer sur cette question.
Non, elle l'a pas dit comme ça. Et là-dessus, elle a fait une erreur. Et je pense que c'était à refaire. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, elle ne referait pas. Elle dit que oui, elle ne referait pas la même chose de la même manière. Et ça.
Moi, pour moi, il y a une erreur qu'elle a faite. C'était de parler de l'enquête journalistique. Pour moi, il n'y a pas à outer une enquête journalistique. et il faut la laisser faire son travail. Ça, c'est
même
sûr.
Il n'y a pas à outer.
Mais quoi qu'il en soit, Sandrine Rousseau, ça fait depuis qu'elle s'exprime dans l'espace public qu'on, à chaque fois, on saute au plafond comme si elle disait des choses qui étaient absolument inadmissibles.
Bah là, ça a choqué beaucoup de monde. Pierre Rondeau.
Après, on peut considérer qu'elle donne le bâton pour se faire battre. Elle est aussi très présente sur les médias et a raison parce qu'elle représente, parce qu'on l'invite, c'est vrai, mais aussi qu'elle est une porte-voix de la NUPES et de la France Insoumise. Mais là, alors si je prends le cas très précis de Julien Bayou et de ce qui a été dit sur un plateau de télévision, elle n'a pas été amenée par les journalistes. Je suis désolé, Fatima, c'est elle qui a pris l'initiative de parler de cette affaire.
Il y a eu une question.
Attends, la relève féministe, on assume. La relève féministe s'exprime sur l'affaire Julien Bayou, qui a été déjà outée par le Figaro, sur les réseaux sociaux. La journaliste dit, excusez-moi, je suis en train de voir des tweets là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et Sandrine
Rousseau. Elle en a rajouté.
D'ailleurs, au début, on lui demandait pas ça.
Tu vois ce que je veux dire? Elle aurait très bien pu mettre en avant, justement, la présomption d'innocence et aussi le fait que si ça relève de la justice, ça relève de la justice, pas d'un comité interne d'un parti politique.
C'est juste ça. Ça relève aussi du comité interne.
Mais surtout, avant tout, pour une question de mœurs, de la justice. Et ce qui va déranger sur ce cas très précis de Jean Bayou, c'est que c'est une forme d'assassinat politique, puisqu'en plus, elle relève directement de son parti politique. Donc, on va lui reprocher ça, en fait. C'est-à-dire qu'elle a assassiné.
J'étais élue par le Congrès dans ce qu'on appelait la commission de résolution des conflits. Et effectivement, il y a des jugements qui sont faits.
C'est ça qui est problématique. Tu peux.
Mais en tout cas, voilà, je voudrais avoir l'avis de Fred. Fred, vous avez 30 secondes sur ce dossier.
Je suis peut-être mal entouré, mais je ne connais aucune femme qui se reconnaisse dans la manière d'agir, dans la manière de parler de Sandrine Rousseau. Aucune.
Sur les femmes?
Sur les femmes. Aucune.
C'est pas vrai.
Et j'en connais des femmes.
Et vraiment, à chaque fois qu'il y a une manifestation, on a rappelé
le
moment
ministre.
Il t'a dit,
lui. Excuse-moi. Dans mon entourage, je suis sûrement très mal entouré, mais personne ne se reconnaît dans la manière de fonctionner de Sandrine Rousseau, qui est, selon mes amis et selon moi, vraiment un frein. Un frein à l'évolution de ces sujets-là.
Elle a heurté beaucoup de gens avec l'affaire Sandrine, dans l'affaire Julien Bayou, alors que effectivement.
En tout cas, quand il y a eu par exemple le débat entre elle et Yves et
elle a été soufflée à la manifestation des femmes iraniennes quand même.
Voilà pour
huée. Vraiment huée.
Ouais. Pour les présidentielles, pour voir qui était le candidat des Verts, elle avait été très 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 soutenue et d'ailleurs beaucoup de personnes pensaient que l'écart entre elle et Yannick Jadot serait énorme. Donc il y a aussi beaucoup de femmes qui se reconnaissent.
Mais on verra aux prochaines élections d'Europe Écologie Les Verts si justement elle fait le même score.